Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots ? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot ? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence ? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie. Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Aujourd'hui, nous recevons trois designers qui travaillent ensemble pour le studio du coin, c'est votre entreprise. Donc, Alicia Leroux, Alexandra Guinvic.
Oui.
Et Brendan Cornick, donc Cornick, pardon. Bonjour.
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 Pour commencer, peut-être vous allez vous. Ce qui serait bien, c'est que vous présentiez individuellement depuis, on va dire, le bac, passant par l'école de design et jusqu'à la veille de ce projet, enfin de ce projet, de cette réalisation, de créer le studio du coin. Peut-être je vais commencer par Alicia.
Oui, alors moi j'ai été au lycée à Guingamp, donc j'ai fait un bac ES, économique et social. En parallèle, je faisais des cours d'art plastique au lycée, c'était les options qu'on pouvait faire pour le bac. Donc depuis enfant, je me destinais à une pratique artistique et de l'ordre de la création, donc c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers le concours des Beaux-Arts ou aussi la formation d'art appliqué qui est un peu à côté des Beaux-Arts aussi, c'est une autre pratique du design. Et j'ai été prise au concours des Beaux-Arts à Brest, je suis arrivée à Brest, donc en 2013 si je ne dis pas de bêtises, non.
Oui à peu près,
ouais.
Continuons.
Et voilà, et puis j'ai découvert l'école d'art, tout ce qu'on y fait, c'était génial parce que c'est vrai qu'au lycée, les matières qu'il y avait, bon, c'était bien, c'était nécessaire, mais j'avais du mal à trouver du sens là-dedans, de m'imaginer à avoir un métier par ces matières-là, et l'art plastique, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Donc quand je suis arrivée aux Beaux-Arts, c'est vrai qu'il y avait, une notion de sens, quoi. Et donc les années ont passé, j'ai choisi la spécialité design, puis design de la transition, ça avait du sens pour moi parce que j'avais envie d'agir pour le changement, pour l'écologie, pour la transition sociologique aussi et sociale. Donc c'est tout naturellement que j'y ai été, donc j'ai fait des projets dans ce sens. Puis à la sortie des Beaux-Arts, quand j'ai eu mon diplôme du coup, il a fallu commencer à travailler. Donc je me suis retrouvée à travailler dans un labo pharmaceutique.
Vous avez trouvé un travail dans un labo, ouais ?
Oui, c'est ça.
Comme à la communication, c'est ça, hein ?
C'est ça. J'étais community manager et au final graphiste à tout faire sur place, voire ingénieur informatique de temps en temps.
Ingénieur informatique, community manager et graphiste.
C'est ça.
C'est bien, ouais. Et après, bon, après, voilà, ce travail vous a peut-être un moment moins intéressé.
Oui, tout à fait. C'était sympa au début, on rencontre le monde professionnel, on apprend à travailler en équipe. Moi qui avais un peu peur pendant mon master de prendre le téléphone, appeler des gens, ça, je me suis fait violence sur place pour faire mon travail tout simplement. Donc j'ai appris ça, j'ai appris le travail d'équipe, comme je vous ai dit, il y avait des commerciaux, il y avait des directeurs scientifiques, donc c'était tous ces corps de métier avec qui il fallait travailler. Donc c'était bien pour ça. Après, il a fallu un moment où j'ai commencé à me re-questionner le sens de qu'est-ce que je faisais là-bas finalement, qu'est-ce que je vendais comme produit, ça me plaisait un peu moins. Donc c'est là que j'ai décidé de quitter l'entreprise et de revenir à Brest pour me lancer en tant qu'indépendante.
En design.
En designer, oui, tout à fait. Et rejoindre mes copains à Brest aussi qui s'étaient mis à leur compte.
Et parmi eux, il y avait donc Alexandra et...
C'est ça, Alexandra et
Brendan. Donc on va... Alors pour Alexandra, ça s'est passé comment ? Donc depuis, on va partir du bac aussi. Ouais.
Mm-hmm. Du coup, j'ai démarré avec un bac scientifique, parce qu'on me disait justement que ça ouvrait pas mal de portes.
Et parce que j'avais aussi envie de faire architecte depuis toute petite, c'était vraiment l'objectif que je m'étais mise. Du coup, ça, voilà, ça correspondait pas mal à ce que je voulais faire, sauf que j'ai vachement galéré en bac S. Et du coup, quand je voulais faire archi, donc demander l'entretien pour les concours, là, c'était plus compliqué par rapport à la moyenne que j'avais, la moyenne générale.
Ça vous a desservi finalement de faire ce bac
voilà, c'est
S
ça.
Parce que ça vous faisait un dossier moins intéressant que si vous aviez fait un bac L, par exemple.
Oui, tout à fait. Et du coup, j'ai fait une prépa Beaux-Arts après le bac S. Et là, ça m'a ouvert des portes pour faire le concours aux Beaux-Arts et rentrer à l'école à Brest. Du
bravo,
coup, avec,
ça fait juste un petit détour, quoi.
Voilà, c'est ça.
Donc et vous êtes arrivé à l'ESAB, on peut la nommer, École...
Européenne supérieure d'art de Bretagne à Brest.
Oui. Et ouais, donc là, vous êtes dans cette école, vous rencontrez Brendan et...
Et Alicia.
Alicia, excusez-moi Alicia. Et quel est le déclencheur qui fait que vous vous rapprochez et puis vous décidez de tenter ce projet énorme là, de créer un studio ensemble à trois, hein.
Du coup, on était dans la même promo à un moment. Et en fait, après la sortie de l'école, on s'est réunis en colocation.
Ah d'accord, oui, c'est simple.
Et c'est de là qu'est née un peu cette envie de travailler ensemble et de... Parce qu'on faisait un peu à notre échelle des petits trucs par-ci par-là. Finalement, ça pouvait se regrouper. Et
D'accord. Bon, je précise que vous menez un double projet chacun, à la fois le studio du coin et vos propres projets qui continuent de façon parallèle.
Ouais.
Et donc, Brendan, alors, le même parcours
Ouais. Depuis le lycée, donc moi, à Quimper, un bac littéraire, option et spécialité art plastique. Donc. J'avais déjà bien la tête dans la création, dans le dessin, dans la peinture, dans tout un tas de médiums. Le fantasme de petit garçon que j'avais, c'était de dessiner des voitures à cette époque-là. Bon, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais...
Bah, les designers qui gagnent pas mal d'argent.
Mais voilà, il y en a qui réussissent très bien dans ce domaine-là.
La conception de voiture.
Ça répond à un besoin. Bon, c'est plus du tout... j'en suis plus du tout là aujourd'hui. Donc ouais, je sors de ce bac littéraire, je fais le concours des Beaux-Arts, comme Alexandra et Alicia. Je rentre, je fais ma première année à Quimper, et après je vais à Brest pour étudier le design. De là, donc, le master design de la transition qui m'amène à m'intéresser à tout un tas de sujets sociaux, environnementaux, etc.
Il faut le préciser parce que c'est aussi une spécialité de Brest.
C'est ça, c'était à l'époque.
Transition écologique et économie sociale et solidaire.
Oui. Ouais, c'était le premier master de design à proposer cette nuance dans le design qui était bon, aujourd'hui c'est plus répandu, mais. Ça nous a conduit à mener des projets très, très engagés dans des préoccupations. Climatique, environnemental, social. Donc je fais mon master en 3 ans et j'ai la possibilité de travailler tout de suite à mon compte. Donc je me mets à mon compte à la sortie des Beaux-Arts.
De quelle manière alors ?
Je viens en tant qu'entrepreneur.
Ah oui, d'accord. Donc ouais. Vous créez des objets.
Et je travaille avec une association à Quimper pour créer des aménagements, effectivement, créer du mobilier, créer des scénographies. Donc les premiers projets arrivent à la sortie de l'école. J'ai quand même quelques mois après la sortie d'école un travail salarié à temps partiel, un travail alimentaire pour sécuriser la sortie de l'école. Et puis
travail en deux mots.
Je travaillais dans une boutique d'encadrement. Donc C'est pas totalement étranger, mais très rapidement, il me demandait de travailler plus, je voulais travailler moins. Donc, je suis parti de cette boîte-là et j'étais à 100% à mon compte.
Très bien.
Et puis oui, comme Alexandra le disait, on mène des projets un peu chacun de notre côté. On est en colocation assez rapidement et on mène nos pratiques voilà, chacun de notre côté avant de se retrouver pour ce projet commun. Quoi.
Avant d'aller plus loin, j'y pense maintenant, on va décrire à 3 ou à 4 si je participe, un projet de design que vous avez réalisé, qui serait à la fois, qui pose la question de la transition écologique, et peut-être aussi, si c'est possible, l'économie sociale et solidaire. En tout cas, la transition écologique, quel projet vous pourriez prendre ? Je pose la question à tous les trois.
J'ai une idée, si je peux commencer.
Vas-y, Brendan.
C'est un projet de résidence, pour le coup. Donc, résidence, ça veut dire que j'ai passé 4 semaines dans un endroit.
C'était avec Alicia et Alexandra ?
Non, pour le coup, c'était en individuel.
Bon, alors rapidement, pendant ce temps-là, vous cherchez un projet collectif que vous avez fait. Ouais.
Sinon, on fera un projet collectif. Hein,
ouais, en quelques mots.
Oui, en quelques mots, c'était dans une recyclerie à Saumur. Et le but, c'était de travailler avec des salariés en insertion de la recyclerie pour aménager le magasin de la recyclerie. Donc c'était un projet d'aménagement, d'ameublement qui était entièrement en réemploi. D'accord. Avec les ressources qu'on trouvait sur place et qui a permis d'aboutir à du mobilier.
Un projet que vous avez fait ensemble, j'en ai vu.
Oui. Alors, c'est vrai qu'on a eu pas mal de projets l'année dernière qui, avec ces idées-là de réemploi, de social et de faire avec, mais on va quand même parler du premier projet qui était un peu à la genèse, c'est là qu'on a un peu testé, qu'on a prototypé le CIO du coin. Donc, je vais vite faire une parenthèse, mais c'était que donc, on était tous les trois indépendants à cette époque-là, avant de se lancer en trio. La réalité faisait qu'en tant qu'artiste, designer, il fallait participer à un certain nombre d'appels à candidature pour faire des projets, pour faire des résidences qui demandaient un portfolio qui était abouti. Mais pour avoir ce portfolio-là, il fallait faire les projets, donc c'est un peu un...
Oui, ça se mord la queue, oui, c'est problème de démarrer.
Du coup, c'était difficile d'enclencher la machine, donc on a décidé de prendre les choses en main et de faire notre propre projet, notre propre résidence. Et c'est là qu'on s'est réunis avec d'autres copains designers aussi, chez mes parents, du coup, parce qu'il y avait un terrain vague, je vais appeler ça...
une construction dessus, non, je me souviens.
Oui. Mais qui n'était pas utilisé et qui demandait à être occupé, ma foi. Donc on est arrivés tous les trois avec des copains, comme j'ai dit. Il y avait de la ressource sur place, puisque du coup c'était une maison qui est à côté de chez mes parents. Mes parents sont agriculteurs, donc il y a un certain nombre de matériaux qui restent en fait, par exemple du bois de bardage de bâtiments agricoles, quoi.
Oui.
Et du coup il y avait cette question-là d'arriver sur place, de faire avec ce qu'il y a sur place, donc du réemploi.
Et de produire quoi ?
Et de produire quelque chose qui pourrait convenir, ou du moins un besoin des personnes qui vivent sur place. Bon, en l'occurrence, mes parents qui se disaient,
Donc vous avez fait de vos parents un client ?
Ouais, voilà, des cobayes, quoi.
Client, ouais.
Et du coup, l'idée est venue d'un salon de jardin. Donc on a réutilisé ce bois-là, on avait amené toutes nos machines. Donc on avait de l'électricité, donc on a pu rabouter les planches.
Quelques mots sur les machines, pour les lister. Qu'est-ce qu'il y a de tour à bois
Pas tour à bois, non. Alors on avait bien sûr tous les électroportatifs, donc des perceuses visseuses, une raboteuse dégauchisseuse, excusez-moi, pour justement encliner tout ce bois qui a pris un peu la patine de l'âge. Et donc voilà, scie sauteuse.
D'accord. Et puis ordinateur et...
Oui, ordinateur aussi.
Logiciel 3D, etc. aussi.
Oui, il y en a un parmi nous qui aime bien modéliser avant de créer.
D'accord. Ok, donc là, vous vous mettez ensemble dans un lieu accueillant. En plus, il faisait beau, j'ai vu les photos, c'était de l'été. Et vous fabriquez du mobilier de jardin. Ouais. D'accord. Mais là, c'était vous qui avez inventé ce projet tout seul. On va partir peut-être d'une première commande. Ça serait intéressant, une première commande qu'on vous a faite, par exemple au Rélec ou ailleurs, je sais pas.
Oui, on peut attaquer sur la première commande qu'on a eue en tant que collectif de design, donc qui était une commande de la ville du Relecq-Quirion pour créer une scénographie pour le festival Thermos, qui est un festival qui a lieu en février tous les ans et qui est une espèce de grand fourre-tout de spectacles vivants. Enfin, c'est un grand festival qui a lieu dans la salle de l'Astrolabe au Relecq-Quirion. Et la demande du Relecq-Quirion, c'était de complètement transformer l'espace, de créer un univers entier dans cette zone pour qu'on ne reconnaisse pas l'espace et puis pour qu'on soit en immersion dans un univers qui était un peu dépaysant, quoi. Donc on avait un peu carte blanche sur le thème. Et donc on a proposé des choses, des univers, en l'occurrence... quelque chose en lien avec l'espace, les planètes lointaines, les volcans, donc quelque chose d'un peu...
Comment on transforme des planètes, des volcans, le grand espace en meubles ou en...
Ah ben voilà.
En dispositif scénique.
C'est ça, c'est toute la question, ouais.
Vous avez fait quoi ? Vous avez fait des meubles, je crois, hein ?
Alors, ce qu'on a fait, donc il y avait l'habillage de la billetterie, donc c'était créé... Alors, dans ce travail-là, il y a du mobilier, il y a aussi des choses qui tiennent plus du décor, donc... Créer des fonds. Mais effectivement, en termes d'aménagement, il y avait des tables, il y avait des assises, il y avait des comptoirs d'accueil, il y avait du mobilier un peu qui ne rentre pas forcément dans des cases particulières, mais il y avait des mobiliers, des surfaces utilisables par les gens qui venaient au festival. Et le but était de faire tous ces mobiliers-là dans cet univers-là un peu immersif et assez étonnant. Ouais.
Il y avait une contrainte financière, une contrainte de temps. Quelles étaient les contraintes ?
On avait une enveloppe, en fait.
Vous avez une enveloppe, ouais, voilà. Tout simplement. Ouais.
Oui, après, c'était à nous de gérer.
Et vous l'avez tenue, sans difficulté ?
Oui, on l'a tenue. Et la contrainte de temps, c'était... Donc, on avait peut-être 2 semaines, un truc comme ça, avant l'ouverture du festival pour réaliser cette scénographie.
Avec 2 semaines.
Et, bon, j'étais sur votre site web, évidemment, voir ce que vous proposez et ce que vous mettez en avant. Vous mettez en avant la concertation avec le public, avec le client, les clients, avec l'institution. Comment ça s'est mis en œuvre pour ce projet particulier du RELEC?
Là, on avait demandé en fait à la ville de communiquer sur du coup ce temps de bricolage en fait de scénographie, et du coup les ateliers de bricolage étaient ouverts au public, aux habitants, aux relécoises, et chacun venait du coup prêter main forte.
Donc là, vous avez coché la case co-conception avec l'habitant.
C'est ça.
Et j'imagine que les lieux, vous avez aussi, vous êtes prêté comme font les certains comédiens ou à la prise de possession du lieu, c'est-à-dire à développer un univers qui est en accord avec le lieu. Oui, enfin, je fais la réponse pour vous, je ne devrais pas.
Effectivement, c'est du sur-mesure et les 2 semaines de chantier, donc en fait, comme c'était un festival, on ne pouvait pas avoir de retard, il fallait vraiment que ce soit prêt. Et en même temps, on ne pouvait pas travailler non plus très en avance puisque la salle était occupée par d'autres projets en amont.
Ah oui, ouais, ça c'est des contraintes. Ouais.
Donc c'était très contrainte. On a dû installer l'atelier de fabrication sur place. Mais on avait 2 semaines point barre pour produire et faire tout ce qu'il fallait faire.
Oui, c'est fort comme contrainte, 2 semaines de temps.
Public, ouais. Ouais, et puis il y avait aussi récolter la matière. On a réutilisé des choses qui avaient déjà été faites pour d'autres projets avant qui étaient cachées dans les recoins des services techniques du RELEC Kérouillon. Donc il y avait tout ce travail-là à mettre en œuvre sur un temps très court. Et oui, c'était 2 semaines assez intenses. Et qui plus est, on proposait aussi pendant le festival, donc après ce temps de chantier, des ateliers ouverts au public pour fabriquer des costumes, pour fabriquer des accessoires en lien avec l'univers qu'on avait imaginé. Et donc c'était aussi un temps en plus qu'on proposait.
Il est bien cet exemple parce qu'il met en avant co-conception, peut-être récupération de matériaux, aménagement d'espace, création d'imaginaire, puisque vous étiez sur un imaginaire de l'espace. Alors, si on passait à la question, à la question suivante, je veux dire, moi, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est quelles sont les compétences. C'est très difficile de savoir quelles compétences on met en œuvre pour faire quelque chose, mais quelles seraient les compétences si vous, par exemple, vous recrutez, ça marche à fond votre affaire, il y a des gens qui se proposent pour venir. Ils peuvent être designers comme vous, ils peuvent être peut-être menuisiers, ils peuvent venir du théâtre, j'en sais rien. Quelles sont les compétences que vous avez mis en œuvre dans ce projet particulier, si on les listait sur un CV un peu idiot, enfin qu'une forme un peu idiote, mais on liste des compétences. Les RH, ils aiment bien ça, les ressources humaines, ils veulent une liste de compétences.
Ah, déjà, pour commencer, on a des compétences partagées qu'on a appris tous les trois aux Beaux-Arts, donc qui sont de l'ordre de la méthodologie de design, même si on a des spécificités un peu chacun de la manière de créer. Donc, il y a déjà ce tronc commun-là qui est le design, notre méthodologie, en plus qui est propre au design de la transition. Pour moi, je parlais que j'ai en plus la communication, la partie graphisme institutionnel.
Oui.
C'est ça. que j'ai appris dans mon précédent travail. Donc,
vous veniez avec ce bagage-là, c'est pas rien. Ouais. C'est ça qui est intéressant chez vous, c'est que tous les trois venaient avec un bagage. Ouais.
Oui, c'est ça. Ouais.
Supplémentaire par rapport à l'école.
Oui. Et la partie graphisme, en plus, travailler avec des imprimeries et tout, quand ça arrive, c'est des choses qui...
Il y a quelque chose dont vous parlez peu, c'est de la menuiserie, c'est du bricolage, c'est de l'assemblage de pièces. C'est pas rien, ça.
Oui.
Vous l'avez appris aussi à l'école du design?
Oui, ça rentre dans les... Après, encore une fois, on a des manières de travailler différentes, mais ça fait partie de notre tronc commun, en tout cas, je crois, c'est ce médium-là, la menuiserie, en tout cas, à notre échelle. Je ne sais pas si vous voulez...
Après, moi, je verrais peut-être de dessin industriel, non, peut-être pas. Enfin, conception en 3D sur ordinateur.
Oui, sur l'aspect créatif, qui est quand même aussi... on parle de la méthode digitale, effectivement, il y a cette compétence à créer des choses, en fait, et accompagner une logique de projet, de l'idée jusqu'à la chose réalisée. Donc, ça passe effectivement par des temps de conception qui sont des temps d'esquisse, d'idéation, et puis de modélisation, qui sont des choses qu'on fait tous les trois. Sur l'aspect compétences de mise en œuvre, effectivement, il y a cet héritage des Beaux-Arts, on travaille en atelier. Et en fait, on se sert un peu dans les compétences qui nous intéressent. Donc le bois, beaucoup, parce que quand on fait de la revalorisation de ressources, on travaille beaucoup sur le bois. Mais pas que, ça peut être de la céramique, du métal, que sais-je, il y a plein de textile aussi, beaucoup.
Et vous avez appris à faire la soudure, à faire...
Pas moi, par exemple, mais Alexandra, oui. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on complète un peu les choses. Et finalement, on ne va pas se qualifier, nous trois, par un matériau, mais on va être capable d'orchestrer un peu des choses en fonction de la demande, en fonction des besoins et des solutions qu'on veut trouver. Donc, En l'occurrence, pour Thermos au Relais Kirion, c'était beaucoup du bois, un peu de plâtre, un peu de, voilà, un peu de choses diverses, mais ça dépend des projets, encore une fois.
Mais le plâtre, c'est pas simple en plus. Hein.
Non,
qui a essayé d'en faire sait de quoi je parle. Peut-être il y a aussi du côté du social, non, enfin de la communication, c'est-à-dire faire travailler ensemble des gens qui ont jamais travaillé ensemble, par exemple, faire produire à des gens qui savent pas dessiner, ce serait mon cas, par exemple, quelque chose pour co-créer avec les habitants, ça c'est pas rien aussi. Non, c'est pas un problème pour vous, ça.
Si, bah en général, dans nos ateliers de co-conception, c'est comme ça qu'on les appelle, on essaye de déployer une certaine méthodologie suivant ce vers quoi on veut aller. Par exemple, si c'est une fresque, on va proposer un atelier de dessin, de fresque. On essaye de préparer l'atelier pour faire en sorte que ce soit bien pris en main, en fait, par les usagers de l'atelier. Pour qu'ils puissent exprimer leur envie, leur esthétique qui leur fait plaisir. Et en même temps, de penser à l'espace, parce qu'il faut que ce soit... Faut que ça marche dans l'espace et faut que ça marche avec les autres personnes. Donc c'est toujours intéressant ces ateliers-là où on vient confronter un peu les idées de chacun. Et c'est ce que nous, on souhaite faire en tout cas en les questionnant.
Vous l'avez fait dans d'autres projets aussi. Ouais. Et il y a un aspect de votre métier, travail, c'est aussi création d'artistes. Je crois que Brendan en fait, Alexandra aussi. Des œuvres, enfin ce qu'on peut appeler des œuvres. Non ? Oui ?
Si, ouais, complètement, oui. Ouais.
Brendan, Tom, j'ai vu une exposition de pliage.
Oui, c'est vrai qu'on a des projets communs sur le studio du coin et en parallèle sur des axes un peu différents qui sont en fait des choses qu'on fait pas, qui tiennent moins du design. Moi, en l'occurrence, je fais des sculptures en papier et c'est des choses que je fais à titre individuel qui nourrissent ma pratique, mais qui inversement, qui en sont nourries. Mais c'est un travail que je fais individuellement et qui tient pas tout à fait des mêmes enjeux et qui
Oui, mais enfin, ça fait partie aussi de votre métier de designer, enfin, en tout cas pour vous, et même pour vous vous en vendez, donc vous en vivez aussi. Oui,
complètement, oui.
Vous ne faites pas de choses comme ça, non ?
Si, un peu, et je veux juste parler aussi du fait que qu'on est designer issu d'une école... une école d'art et de design, c'est pas le même...
Oui, c'est d'abord une école d'art, même, je crois.
Oui, c'est ça, c'est que, du coup, je pense que par notre parcours aussi, c'est logique aussi qu'on vienne alimenter une pratique artistique ou du moins du design d'auteur qu'on va moins trouver dans des formations de design industriel, par exemple.
Oui, c'est vrai. Moi, je connais celle de Compiègne. Ils font pas forcément... Ils n'ont pas la formation d'artiste, enfin, de production d'œuvres considérées comme œuvres et non pas comme objet fonctionnel.
Et on voit, en tout cas, c'est vrai qu'à l'école, du coup, il y a la spécialité design et art, juste pour finir. Et on sent les porosités qu'il y a... dans ces deux disciplines-là, finalement, qui se mêlent. Enfin, on peut travailler à l'intersection de ces deux pratiques, quoi.
Oui, donc, vous avez monté le studio du coin. Et ça marche, on va dire, parce que ça fait 3 ans que ça dure, ou un peu plus, je ne sais plus. Mais ça ne marche pas comme vous voulez aujourd'hui, parce que le salaire que vous dégagez n'est pas le salaire que vous pourrez légitimement espérer. Donc ma question, c'est pourquoi malgré tout persister et pourquoi travailler de cette façon-là quand on peut, par exemple, aller se faire recruter dans un cabinet de designer, voire pour vous, par exemple, Alicia, travailler dans la com où c'est peut-être plus payant, je ne sais pas. Quelles sont les raisons profondes qui font que vous faites ce que vous faites ?
Oui, bah déjà, pour commencer, c'est vrai qu'il y a l'aspect pratique où j'ai l'impression que notre collectif est un peu une extension de ce qu'on est en tant qu'entrepreneur. Donc c'est vrai qu'on peut gérer notre emploi du temps plus facilement. Et c'est vrai qu'on est à trois, on arrive à bien faire les choses pour chacun. Et puis je pense qu'aussi, au fond, on est un peu des idéalistes. Et ce qu'on essaye de mettre en place, par exemple, dans des communes, et bah, c'est un peu le monde dans lequel on aimerait vivre, nous. Donc on essaie de mettre un peu en place du monde vers lequel...
Derrière le projet professionnel, il y a un projet personnel et politique, d'une certaine manière.
Oui, j'ai l'impression, ouais, que...
Construction d'un monde.
Ouais, construction d'un monde où on fait du réemploi. Ça nous paraît tout à fait logique. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille avec la réserve. Je ne sais pas, peut-être qu'on va y revenir plus tard, mais de faire du réemploi, de faire du social, parce qu'on a envie de faire du commun, de travailler en collectivité et d'être moins dans l'individuel, quoi. Et donc, par ce genre de projet, c'est un peu le monde qu'on a envie de défendre, je crois en tout cas.
Oui, non, mais c'est très clair. Enfin, ça s'entend très très bien. D'autres raisons je sais qu'à un moment, j'ai demandé, je ne sais plus si c'est à Brendan ou pas, pourriez dessiner des voitures, ça serait mieux payé.
Oui,
surtout
oui,
que
oui.
Vous en avez dessiné petit, mais c'est ce que vous ne voulez pas faire, justement.
Mais c'est intéressant ouais, d'évoquer la déconstruction qu'on peut avoir d'un métier, d'une pratique, quand on s'y penche sérieusement. Effectivement, notre projet qu'on mène ensemble, c'est aussi une critique d'une façon de faire du design. On n'a pas envie de faire du design qui sert finalement à renouveler des productions en permanence, à renouveler les lignes de production avec des produits à la mode. Enfin, on n'a pas envie de servir ce modèle-là du tout.
Oui, j'avais cité aussi Andy Warhol, je crois, qui fait des bouteilles de coca, donc.
Oui, on n'a pas envie de faire des bouteilles de coca, pour résumer.
Mais lui prétend faire une œuvre d'art et...
Ouais. Après, ça, c'est des débats qui sont peut-être plus internes à l'art contemporain et
au
parcours de gens qui sont en fait très très connus et qui jouent de cette image-là.
Enfin, c'est pas votre choix de toute façon. Ouais.
Non, et puis le fait de travailler en collectif aussi peut nous permet d'aborder des projets qui ont plus d'envergure et
qui
nous permettent de faire des choses différentes de ce qu'on peut faire tout seul. Donc c'est important pour nous aussi, je pense individuellement, de pouvoir avoir cette possibilité en plus de faire des choses plus importantes. Et effectivement, aujourd'hui, alors ça fait 2 ans, hein, si on veut être précis, enfin pas précis, c'est pas précis, mais ça fait peut-être 2 ans qu'on est très très sérieux sur le sujet du coin, qu'on est à plein temps dessus.
D'accord. Ouais.
Et on n'en est pas encore, mais c'est normal, on n'est pas encore dans une situation stabilisée, mais en fait on y croit et je pense que on voit les perspectives, on voit les opportunités qu'on a et ça se construit peu à peu, ça se construit de manière cohérente. Mais effectivement, on crée quelque chose. Donc, quand on crée quelque chose, on s'attendait effectivement à ce que ce soit pas un résultat immédiat, comme contrairement en fait, se faire embaucher dans un cabinet, par exemple. Effectivement.
Oui.
Donc, on est en construction, on a conscience d'être en construction, mais c'est une étape.
Et si on pouvait parler de manière presque un peu crue de modèle économique. Oui, un modèle économique, c'est un équilibre de budget avec des dépenses et des ventes. Ça serait quoi? Ça serait répondre à des appels d'offres d'institutions. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Il y a une part de démarchage dans ce qu'on fait, où on va contacter des communes notamment, mais pas que. Enfin, on essaie de faire connaître notre travail et de démontrer l'intérêt de mener les projets qu'on propose. Et sinon, le modèle économique, effectivement, c'est des charges et des produits. Nous, on fait payer nos prestations, qui sont des prestations du début d'un projet jusqu'à la fin.
Donc ça s'apparente à du conseil, finalement ouais.
Pas que, parce que c'est aussi de la production d'œuvres, en fait. Et tout ça, c'est du temps qu'on chiffre, en fait.
Vous chiffrez vos œuvres en termes de... On chiffre nombre d'heures.
On chiffre notre travail, c'est ça. On chiffre le temps qu'on passe à faire des choses.
En nombre d'heures.
Ouais. Hein.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'on échange avec des associations, des clients qui sont souvent des collectivités hein, pour l'instant. À terme, on n'est pas du tout opposé à l'idée de travailler avec des entreprises, avec des sociétés commerciales sur le volet RSE, donc responsabilité sociale.
De quelle manière alors? Quelle articulation Sous forme de quelle articulation vous pourriez vous associer à des entreprises?
Oui, alors, parce que Brennan s'est trompé, c'est responsabilité sociétale des entreprises.
Je suis trompé sur le sigle RSE. Et...
Oui, c'est une exigence aujourd'hui. C'est une exigence juridique, je crois même.
Sur le plan, et du coup, éthique,
même sociale, écologique. Même les banques font de l'éthique, oui. Ouais.
Oui, après, on peut mettre ce qu'on veut derrière, hein, c'est la magie du... Bref.
continuez, je vous ai coupé.
Oui. Très bien. Donc, pour les entreprises, ce qu'on pourrait faire, c'est vrai que nous, dans tous les cas, on a notre pratique qui est d'aller vers, de faire avec du mobilier, par exemple, qui peut répondre à des besoins d'usagers d'un lieu. Donc, ce qui peut être... En entreprise, il y a plein de choses qui sont possibles. Par exemple, on peut travailler sur... si on se rend compte que les employés ont besoin d'un espace de convivialité intérieur, extérieur, on peut... proposer des ateliers de conception avec eux et de fabrication de ce mobilier-là.
Oui, je vois, vous profitez de cet ajout qu'on ajoute aux entreprises, cette fonction supplémentaire aux entreprises qui serait une responsabilité sociale et écologique. Ouais.
C'est vrai qu'on le
voit. Et donc, s'ils ont des projets de ce type, vous êtes bien placé pour vous positionner sur des projets de...
Oui, parce
qui revendiquerait ça. Quoi.
On peut le voir comme une opportunité, c'est vrai.
C'en est une, oui, parce que si, effectivement, Oui, enfin bon, voilà, j'en ai déjà discuté avec un banquier, donc qui, effectivement, c'est une obligation. Hein. Mm-hmm. Pour eux, lui, il pensait en termes de, par exemple, tout simplement de marché vert, par exemple, c'est-à-dire au lieu de mettre son argent sur le pétrole, on peut le mettre sur. Mais bon.
Oui, il y a différents.
Ça peut être aussi tout simplement de faire un projet. L'UBO se pose la question comment faire une fac plus verte, etc. Et là, il pourrait avoir besoin de vous, par exemple. Ouais.
Ouais, et puis de manière très pragmatique, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des ressources matérielles dont elles ne savent plus quoi faire. Et en fait, ça peut être vraiment des choses à activer pour créer des choses qui répondent aussi à des besoins d'usage. Mais c'est aussi un moyen de transformer des choses qui sont inutilisées, qui sont stockées, en des aménagements innovants, en des choses intéressantes pour les gens qui y travaillent. Quoi.
Voilà, je me permets de citer votre collaboration avec une autre association qui est la Réserve des matériaux, qu'on a interviewé les responsables. Donc la réserve des matériaux, c'est un endroit où des tas de matériaux issus du bâtiment s'accumulent et vous pouvez mettre ça en valeur d'une autre façon, parce que si on vend brutalement comme ça une porte, mais si on n'imagine pas ce qu'on peut faire avec, elle est moins vendable et vous ajoutez la fonction supplémentaire ou,
Nous, on peut se servir dans ces ressources, effectivement, la réserve des matériaux collecte énormément de choses que nous, on peut utiliser, qu'on peut détourner, qu'on peut transformer, qu'on peut démonter, qui sont en fait autant de choses qui peuvent servir nos projets d'aménagement, d'ameublement, et qui sont... qu'on a la chance d'être vraiment à proximité de ce flux de ressources-là. Donc effectivement, la proximité avec cette structure-là, elle est importante, sachant que nous, la modalité de notre lien avec eux, c'est qu'on partage nos bureaux, en fait.
Pour l'instant, oui, non, mais il y a du côté de la fabrique des matériaux, je pense qu'ils espèrent plus, et de votre côté aussi.
C'est possible, il y a sûrement des choses à mettre en place.
Après, bon, le chemin se fait en cheminant. Et si on passe au... Bon, on voit bien la raison qui vous pousse, vous avez, tout simplement, c'est profond, c'est une envie de travailler autrement et dans le bon sens. Et les difficultés que vous rencontrez, je ne sais pas, quelqu'un, pour moi, ce que j'appelle une difficulté, il y a deux sortes de difficultés. Il y a quelque chose qui est difficile, mais qui vous grandit, qui vous, voilà, qui fait quelque chose de différent de vous, et donc c'est une difficulté très intéressante. Il y a des difficultés plus compliquées, moins agréables. Par exemple, pour un artiste, ça peut être de vendre. Il y a beaucoup d'artistes qui ne savent pas vendre leurs œuvres. Ça peut être les papiers, ça peut être ce qu'on veut. Quelles seraient les difficultés que vous rencontrez dans votre métier qui se posent comme vraiment difficultés difficiles, quoi. Je suis clair, ouais.
Ouais, il y en a une que je vois qu'on rencontre souvent, mais qu'on arrive à surpasser peut-être de plus en plus, c'est le fait d'expliquer ce qu'on fait.
Ah oui.
Parce que voilà, le métier designer, bon, il est connu d'une certaine façon, le mot design est utilisé un peu à tort et à travers. Du coup, nous, on prend beaucoup de temps, souvent, pour expliquer ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, les besoins auxquels on peut répondre et les solutions qu'on peut apporter. Et c'est vrai que pendant longtemps, ça n'a pas été simple de vraiment faire comprendre aux gens avec qui on pouvait travailler les choses qu'ils pouvaient nous demander, en fait, tout simplement. Donc,
oui, je comprends bien, parce que vous inventez, à la fois, vous faites du design, déjà, c'est pas simple, le design, et en plus, vous le faites d'une autre façon.
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc, effectivement, oui.
Je pense qu'il y a aussi la problématique du... On veut faire avec, mais du coup, il faut, quand on met en place des ateliers aussi, il y a le fait que c'est vrai qu'au Beaux-Arts, on n'a pas forcément appris à gérer la participation, à animer des groupes dans le cadre d'ateliers. Donc ça, on apprend un peu...
Ah, c'est ce dont je voulais parler tout à l'heure, à propos de compétences. Ouais.
Donc ça, c'est des choses qu'on apprend un peu jour après jour quand on est avec différents publics. Souvent, ça se passe bien. Des fois, ça se passe pas bien. Des fois, on a plus de difficultés à ramener... les publics pour venir aux ateliers quand on leur demande...
C'est pas que l'atelier se passe mal, mais c'est qu'il faut mobiliser les gens, ils viennent pas
c'est
forcément.
C'est ça, oui.
Bah, moi, je vois que vous introduisez en fait deux sources de hasard dans votre métier. C'est les ressources qui sont déjà là, c'est-à-dire que vous n'allez pas les chercher, elles sont là. Donc, mais ce qui est là n'est pas forcément... correspond pas forcément à ce dont on a besoin. Ça, c'est le premier hasard. Et le deuxième, c'est que vous faites avec les gens, les habitants. Et ça, c'est beaucoup de hasard aussi, parce que bon, les gens sont variés, et heureusement. Et c'est peut-être ça crée de l'incertitude sur la... Déjà, la personne qui vient vous voir, ça crée de l'incertitude, et pour vous, ça n'en crée pas. C'est pas une difficulté ou... Est-ce que c'est un apport ou une difficulté, ça, s'exposer à ce hasard des gens qui viennent et qui ne viennent pas, à ce hasard des matériaux disponibles ou pas disponibles?
Bah, c'est vrai qu'il y a un enjeu de créer une convergence entre des besoins, des ressources présentes et un territoire. Tout ça, ça s'invente pas. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que les gens qui font appel à nous ne sont pas forcément les gens... En fait, quand une commune fait appel à nous, elle nous demande aussi de comprendre les besoins des habitants. Ça fait partie de la demande de faire un travail d'enquête et de bien comprendre,
oui, c'est ça.
De bien cerner les besoins. Et c'est toute une logique, c'est tout un travail de réussir à mettre en rapport un besoin, une envie ou un désir d'un habitant sur son territoire avec quelque chose qui est une ressource qui serait présente sur place. Et puis nous, on a nos compétences, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et des choses qu'on peut faire. Quand on a rencontré les habitants qu'on rencontre dans les communes, des fois, nous parlent de choses qui relèvent pas du tout nos compétences.
D'accord, mais là, vous pouvez réorienter, ouais.
Ouais. Mais voilà, donc il faut réussir à faire le tri entre plein de choses. Et c'est une compétence qu'on développe aussi dans le cadre de notre activité, effectivement, de bien comprendre tous ces enjeux-là.
Mais ce qui se comprend bien pour vous, en fait, c'est quelque chose de plus plutôt que de moins, finalement.
Bah, je pense, ouais.
Oui, oui. Mm. Maintenant, on va faire une projection dans 5 ans. votre entreprise, peut-être avant de faire cette projection, dans j'imagine que vous écoutez les informations et les choses évoluent. A priori, on va vers plus d'écologie, etc. Il y a des choses qui se mettent en place au niveau national, etc. Est-ce que, a priori, vous voyez plutôt la tendance globale, économique et sociale et peut-être morale ou éthique, je ne sais pas, aller dans le bon sens pour des métiers comme celui que vous inventez, ou au contraire, non, parce qu'on veut produire de plus en plus vite, etc. Quelle place pour vous, quelle sera votre place dans ce qui bouge actuellement? Qu'est-ce que vous voyez de positif et peut-être de moins positif? Je suis clair, ouais.
La question est claire, ouais. J'ai l'impression que le vent se trouve quand même dans le bon sens pour nous. Il y a la question du réemploi qui est très portée en ce moment, qui effectivement s'inscrit dans la législation de plus en plus. Donc nous, on a cette carte-là dans notre travail, dans notre méthode. Et puis, il y a le rapport au... Le fait de remettre les habitants, les usagers au cœur de la conservation de l'environnement, c'est aussi des démarches qui sont de plus en plus portées par les collectivités. Donc nous, on s'inscrit aussi là-dedans. Donc il y a plusieurs aspects qui vont dans le bon sens pour nous. Et puis, il y a un aspect qui est aussi tout simplement que c'est important de faire des choses ensemble, que c'est important pour les habitants de se retrouver sur des projets communs, c'est important d'apprendre à bricoler, d'être un peu plus autonome sur le fait d'aménager des choses. Et ça, c'est je pense, je pense qu'on pense tous, mais c'est quelque chose d'important et de précieux. Quoi.
Oui, c'est sûr. Et alors, comment se projeter dans 5 ans, à la fois peut-être tout le mode du rêve, vous n'êtes pas des rêveurs, vous êtes des gens qui entreprennent, mais il faut être rêveur pour entreprendre. Une projection dans 5 ans, je ne sais pas, peut-être Alexandra, parlez-moi. Le studio du coin, on va dire que ça a marché. Bon, ça a marché, ça veut dire tout simplement que vous avez pu équilibrer produits et charges. Mais quelle direction peut prendre une telle entreprise? Bon, elle a déjà une direction, hein, mais comment, par exemple, Brendan m'avait cité la volumerie. Est-ce que c'est un objectif pour vous? Donc la volumerie, c'est des gens qui travaillent un peu comme vous, mais ça marche. Pour eux, ils sont là depuis plus longtemps, donc je crois qu'ils font des décors de musées, notamment. Bon. Projection, Alexandra ou Alicia?
Alors je pense que nous, on n'a pas... c'est vrai que la volumerie... c'est vrai qu'il n'y a pas cette démarche, en tout cas, je ne crois pas, avec cette démarche de participation du public. Donc c'est vrai que nous...
Non, c'est vrai, oui.
Et c'est très implanté dans un lieu. Enfin, ça grandit de plus en plus et c'est génial d'ailleurs. Enfin, toute cette activité, tout ce stock qu'il crée. Dans notre cas, à nous, j'imagine dans 5 ans, toujours itinérant, c'est vraiment un truc qu'on a envie de cultiver. Donc on espère avoir peut-être un véhicule. Avec un atelier...
Pour être itinérant, il vaut mieux. Ouais.
Un véhicule qui sera à nous, d'accord. Avec un atelier aménagé dedans. C'est un peu ce qu'on projetait.
Actuellement, vous louez un camion, s'il y a besoin?
On loue un, un fourgon en autopartage avec la réserve des matériaux et d'ailleurs aussi l'atelier Troéol qui est aussi colocataire comme nous à la réserve des matériaux.
Là, vous respectez votre modèle.
Oui, c'est ça. Nous, ça nous va. Mais peut-être qu'un jour, et si tout le monde grandit comme on a envie, on aura besoin de plus de temps sur le camion. Et peut-être que
Oui, ce sera plus compliqué de le partager. Ouais.
Ouais, voilà, peut-être que ce sera ça. Donc nous, on a envie d'avoir... déjà, on rêve sur ce camion qu'on imagine orange.
avec un lieu, actuellement, vous êtes dans la réserve des matériaux.
Oui. Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie. On n'a pas envie de se mettre que tout seul parce que c'est... Enfin, c'est quelque chose qu'on ressent déjà à la réserve. Là, on est super content de partager nos bureaux avec d'autres personnes. Enfin, c'est super. On retrouve un peu le côté colocation, quoi. Partager les bureaux, discuter avec d'autres personnes que nous trois, de partager le café tous ensemble. Enfin, il y a un truc qui est du collectif et partager aussi les locaux qui pour nous fait totalement sens, qu'on marche ou qu'on marche pas, quoi.
Il y a le coworking qui rentre là-dedans. Il y a des espaces de coworking à Brest. C'est pas comme vous faites, mais c'est parce que c'est plus varié. Vous, sur l'instant, vous êtes deux partenaires. Ouais. Donc oui, coworking, acheter un camion, un lieu. Ouais, l'itinérance, on n'a pas beaucoup parlé. C'est pas facile d'être itinérant avec des machines à bois. Et...
Non, ça fait partie de la problématique justement. Pour revenir au camion, donc ce qu'on imaginait, c'était donc un atelier. Donc c'est un camion aménagé et avec des établis qu'on puisse déplier sur la place publique, un peu ce qu'on a voulu faire avec le tour du coin cet été, mais vraiment orienté établi de travail, quoi, avec toutes les machines. Et donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à la quantité de machines électropertatives qu'on prend dans le camion pour qu'on n'ait pas trop, mais pas assez non plus, et que ce ne soit pas des trop grosses machines non plus, quoi. C'est vrai que ça va pas être la grande scie sur table, mais on va plutôt valoriser la scie plongeante, qui est plus petite, et les scies sauteuses, quoi, pour du travail un peu plus...
C'est ça, on n'en a pas parlé aussi, vous avez... Brenda, notamment, théorise pas mal sur le pliage.
Ouais.
Et la façon dont vous me décrivez le camion, moi je vois un camion de plombier, mais qui se déplie, ouais, sur une place publique.
Il y a vraiment cet enjeu pour nous de déployer les choses... Le côté itinérant, il nous tient vraiment à cœur parce qu'on a vraiment cette envie de découvrir des territoires, de rencontrer des endroits qui, par ailleurs, sont pas forcément beaucoup d'accès à des expériences culturelles ou à des choses comme ça. Donc nous, on veut aller dans ces territoires éloignés. Et le camion, la logique de déployer des espaces conviviaux, des espaces de partage, des espaces de rencontre, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous. Et ça, effectivement, ça a plein d'implications en termes de design, en termes de choses qu'on met en œuvre, de choses qu'on met en forme. Et le fourgon, c'est un exemple, mais on avait aussi théorisé le fait de le faire en ville, à l'échelle d'un vélo électrique qui aurait une remorque. Donc c'est une autre échelle, c'est d'autres problématiques. Oui. Mais il y a cette idée de pouvoir un peu trimballer avec nous, de pouvoir tirer notre charrette, de pouvoir aller d'un lieu à l'autre avec ce qui nous suffit pour faire projet. En fait. Mais bon,
c'est ça qui est intéressant dans votre projet. Il y a la réalisation, il y a du concret, on se bat tous les jours. Et en même temps, il y a vraiment un rêve derrière. Un rêve au sens projet politique, projet de vie, projet... Ce serait votre spécificité, peut-être.
Ça pourrait être un horizon. Oui.
Pour comment ?
Ça pourrait être un de nos horizons d'avoir cette itinérance.
Alors, peut-être avant-dernière question, je dirais. Bon, vous faites ça maintenant. Vous êtes ensemble depuis 3 ans. C'est concret depuis 2 ans. De quelle manière, alors c'est court, mais de quelle manière ce parcours collectif a pu vous transformer, a pu faire de vous quelqu'un de différent de ce qu'il était il y a 2 ans, 3 ans. Chaque fois qu'on agit, on agit sur l'environnement, là, l'environnement agit sur nous. C'est clair. C'est ça qu'on comprend pas, c'est ça que comprennent pas les gens qui sont pas écolos, justement. Donc, de quelle manière le boulot, considéré comme environnement, a pu vous transformer éventuellement sur 2 ans, 3 ans
Moi, j'ai l'impression qu'on devient un peu des couteaux suisses. C'est vrai qu'on a appris, notamment avec l'incubateur, comme on a été incubé, je crois que c'est Brendan qu'on avait parlé, donc on a appris à faire un peu de compta, on n'est pas comptable, à faire des tableaux économiques, des plans de financement, à faire aussi d'autres trucs, bref, du juridique par exemple. Enfin, on n'est pas juriste pour autant, mais on apprend les bases et du coup on devient un peu ces couteaux suisses et du coup on fait... la fabrication, les animations auprès des chantiers, auprès du public. On va après faire des réunions publiques auprès des élus, auprès d'habitants des communes. Donc c'est vraiment toutes ces activités-là qui se mélangent et qu'on a appris sur le terrain, quoi. On n'a pas appris ça à l'école. Donc,
Je vois, oui. C'est la création d'une entreprise déjà au sein d'un incubateur d'entreprise. Ouais. Autre chose, travailler ensemble, c'est pas si simple. Ça suppose en fait d'acquérir des façons d'être, enfin que vous aviez déjà peut-être, parce que vous avez colloqué.
Bah oui, ça déjà ça aide parce que ça nous fait apprendre la vie collective quoi, les libertés de chacun et tout ça, comment collaborer.
Ouais, surtout que vous menez quelque chose à côté, c'est ça qui est beau, à la fois de ne pas renoncer à ce qu'on fait individuellement et de faire un truc collectif, ouais.
Bah c'est ça, bah ça faisait un peu partie du jeu aussi, hein. C'est vrai que quand on s'est rassemblés, c'était aussi pour passer à une autre échelle, pour faire des plus gros projets, et on voit les projets qu'on a là actuellement, jamais on n'aurait pu le faire tout seul, quoi, parce que ça demande, enfin je sais pas combien de bras ça demande et combien de cerveaux, mais là on a 6 bras et 3 cerveaux, et c'est vrai que on a pas mal de boulot pour le coup, on pourrait avoir des bras supplémentaires, et ça c'est pour la suite, dans les 5 ans peut-être.
Il faut le budget, faut un budget qui suive.
Oui c'est ça, et puis des postes salariés aussi, pourquoi pas.
Et alors, si vous donniez autre chose à ajouter, non. Si vous donniez des conseils, un conseil à, par exemple, à prendre Tilwan qui va monter son entreprise avec un copain de lui qui s'appelle Mao, quel conseil on peut donner, tout simplement, je plaisante là, hein, à des jeunes gens qui veulent d'une part faire designer peut-être, enfin, il y a des écoles, bon, il n'y a pas que ça. Et l'autre chose qui est de monter une entreprise ensemble, c'est tout sauf simple, je pense. Mais c'est très important parce que du coup, vous inventez une façon de travailler. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on est malheureux au travail ou pourquoi on est heureux. Et je pense que la façon, ce que vous inventez, elle va plutôt dans le bon sens. Ouais. Mm-hmm. Donc, conseil là-dessus, Brendan, peut-être ?
Pas forcément énormément. Enfin, il y a quelque chose qui me vient en tête, moi, c'est l'accompagnement. Même si on est 3, on n'a jamais été 3 en fait, on a toujours été accompagnés, on a fait la démarche, du coup il y a cet incubateur qui nous a énormément aidé à faire émerger quelque chose de solide et d'assis. Mais voilà, encore aujourd'hui on a cette envie d'être en colocation avec d'autres structures, on a cette envie de partager les projets, de nourrir les choses avec d'autres personnes. Et oui, je pense qu'un collectif ne peut jamais être tout seul en fait, enfin, ça ne marche pas, il y a une logique d'avoir à avoir un environnement de projet, un réseau,
Oui, c'est ça, il faut se plonger au cœur de l'environnement qu'on doit habiter pour faire cette activité.
C'est le sentiment que j'ai, et c'est un conseil que je donnerais, ouais, c'est d'avoir cette ouverture-là, d'avoir toutes les portes ouvertes. Quoi.
C'est ce que m'a donné comme conseil aussi un musicien.
Ah oui.
Il faut aller voir les producteurs, il faut aller voir les autres musiciens, il faut être dedans. Quoi. Autre chose ?
Non, bah moi je rejoins complètement Brennan là-dedans. C'est vrai qu'on nous a déjà posé la question et nous on se rend compte que le moment même où on a rejoint l'incubateur du TAG, enfin les choses sont...
Le TAG qui est l'endroit où vous êtes.
Oui, tout à fait, c'est l'incubateur qui est dans le Alades, qui est le pôle ESS du pays de Brest.
ESS, économie solidaire et sociale. Ouais.
Oui, tout à fait. Et ça nous a fait, ça nous a fait nous envoler en quelque sorte.
Super, on va s'arrêter là-dessus sur un beau décollage. Je vais rappeler si les auditeurs s'intéressent au Studio du Coin, il suffit de taper dans Google Studio du Coin. Et il y a un site qui c'est www.studioducoin.com, ouais. Il y a portfolio aussi. Ouais. Et donc si vous étiez Alicia Leroux, Alexandra Gouinvic et Brendan Cornic. Donc, merci beaucoup. Merci d'être venu au studio.
Merci.
Au revoir. Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.